Réplique, hier, aujourd'hui et demain, avec Régis Debray et Henri Weber. Henri Weber, co-fondateur de la Jeunesse communiste révolutionnaire, a publié en 1988 un livre intitulé « 20 ans après, que reste-t-il de 68 ?». Cet essai a été réédité sous des titres différents tous les 10 ans jusqu'en 2008. À l'approche du 50e anniversaire des célèbres événements, Régis Debray a conseillé à l'auteur de se garder de tout nouvel opus théorique. Ce n'est pas comme cela qu'on aborde ces sujets aujourd'hui, lui a-t-il dit. Les idées d'Henri Weber, on s'en fout. Mais la vie d'Henri Weber nous en dira beaucoup sur le temps écoulé. Le conseil a été suivi à la lettre et Henri Weber publie le premier volume de ses mémoires, Rebelle jeunesse. Au même moment, Régis Debray revient sur son propre parcours dans une lettre ouverte à son fils Antoine qui paraît sous le titre « Bilan de faillite ». J'ai voulu aujourd'hui confronter ces deux traversées du siècle et converser sur les leçons que chacun en a tirées. Je commencerai par ce que Sartre appelait le choix originel. Quelles sont les rencontres, les réflexions ou les réflexes, les lectures ou les circonstances qui ont déterminé vos premiers engagements, Henri Weber?
Je suis de cette génération qui a connu la guerre d'Algérie. Et c'était vraiment une sale guerre. J'étais au lycée Jacques Decour et à 300 mètres de cet établissement, on torturait dans les commissariats à Barbès. Et il y avait une contradiction éclatante entre l'inscription qui figurait sur le fronton de ce lycée, liberté, égalité, fraternité, et le comportement de l'État français, de son gouvernement. Et donc, nous sommes nombreux à être venus à la politique par indignation contre les guerres coloniales. La guerre d'Algérie nous a concernés directement parce que nous en étions les contemporains.
Vous aviez quel âge ?
Moi, je suis né en 44. En 54, quand elle a commencé, j'avais 10 ans.
Oui.
Et en 62, quand elle a terminé, je vous laisse faire la soustraction. Bien, mais quand elle s'est achevée, il y a eu l'OAS et compagnie. Donc, on a été très profondément marqués par cela et par l'époque. Hein, comme disait Chris Marker, le fond de l'air était rouge. La terre se couvrait de guerres de libération nationale et sociale, dont de très nombreuses ont été victorieuses. Et on avait le sentiment d'une avancée irrésistible, d'un rouleau compresseur de la Révolution. Et c'est pourquoi, moi, j'ai adhéré aux jeunesses communistes, au lycée, à 16 ans, puis à l'Union des étudiants communistes, parce que ceux qui luttaient en France contre la guerre d'Algérie, la grande force qui luttait, c'était, il faut le reconnaître, principalement le mouvement communiste. Et j'ai donc adhéré au JC, au parti lui-même, à l'Union des étudiants communistes. Mais là, j'ai découvert autre chose, j'ai découvert le stalinisme. En 56, c'est le célèbre rapport Khrouchtchev dénonçant les crimes de Staline. Et le Parti communiste français parlait longtemps des crimes attribués à Staline et niait l'évidence. Bon. Et donc, non seulement nous étions révoltés contre l'Occident impérialiste, bon, dont nous mesurions les méfaits, parce qu'après l'Algérie, il y a eu le Vietnam, première guerre télévisée au monde. On envoyait à midi et à 20h au journal télévisé les méfaits. Mais voilà l'acte fondamental.
D'accord. Alors, dans votre livre, Régis Debray, vous dites aussi que c'est l'air du temps qui fixe le cahier des charges. À notre insu, en 1960, le fond de toile était rouge. Ce qui reprend un peu l'expression de Chris Marker, citée par Henri Weber. Régis Debray.
Oui, les hommes ressemblent plus à leur temps qu'à leur père. Et comme Henri et moi avons vécu à peu près le même temps, même si je suis un ancien par rapport à lui à quelques années près, évidemment, Henri allègue la question d'un côté, c'est-à-dire la torture sous l'égide d'un gouvernement républicain et encouragé par lui, et de l'autre, Gary Cooper, c'est-à-dire, pour qu'il sonne le glas, la guerre d'Espagne. Car On est fils de son temps, mais aussi, ça peut être une filiation un peu spectrale. On est fils du temps d'avant, et le temps d'avant, c'était pour moi la guerre d'Espagne, à laquelle notre génération n'avait pas failli, mais enfin avait manqué. Et donc, il y avait là comme une sorte de remords, lié aussi au fait de ne pas avoir vécu la résistance. Donc voilà, le réel d'un côté, l'imaginaire de l'autre, et vous avez un petit bonhomme qui se met à croire que la politique peut changer la vie.
Oui, le réel, l'imaginaire, et dans votre livre aussi, le hasard. Le caractère un peu aléatoire, oui, des engagements. Vous citez Napoléon, rapporté par la Cérès. Oui, oui, oui. C'est parce que je sais toute la part que le hasard a sur nos déterminations politiques que j'ai toujours été sans préjugés et fort indulgent sur le parti que l'on avait suivi dans nos convulsions.
Oui, j'ai appris à ne pas absolutiser, à ne pas moraliser, à ne pas excommunier, simplement parce que c'est vrai que nos engagements dépendent d'une contingence, c'est-à-dire des rencontres. Vous avez évoqué tout à l'heure les rencontres, pas seulement les lectures, mais les amitiés, et peut-être parfois un billet de charter qui vous emmène en Amérique du Sud et non en Amérique du Nord. Voilà, donc vous vous êtes plongé dans un milieu. Donc je n'en veux pas à ceux qui ont d'autres idées que moi, parce qu'ils ont sans doute eu d'autres amitiés que moi, ou d'autres allégeances qui ne sont pas venues de l'esprit seulement, qui ont pu être rationalisées par la suite, mais qui sont venues, je dirais, du hasard des choses.
Et le hasard des choses, pour vous, ce serait quoi, par exemple ?
Oh bah, le hasard des choses, c'est simplement la rencontre avec d'anciens résistants, la rencontre avec des cinéastes engagés, comme Joris Sivens, Chris Marker. Chris Marker qui avait fait un film qui s'appelait « Koubassi ». Et je mets Chris Marker parce que c'était un homme de lettres. C'était un homme de lettres qui avait pris la caméra et pour qui la caméra était un stylo. J'ai cru pouvoir faire comme lui et me voilà parti au Venezuela en 1963. Écoutez, tout ça n'a pas grand intérêt, c'est simplement anecdotique. Mais ce qui est important, c'est peut-être le parcours que cela engage et... À un moment donné, il faut bien faire ses comptes.
Oui.
Sortir du compte et faire ses comptes.
Ça veut dire quoi pour vous, faire ses comptes, Henri Weber ?
Alors, mon livre, à un moment, j'avais envisagé, mais Dieu merci, les éditeurs m'en ont dissuadé, de l'intituler « De l'utopie chimérique à l'utopie réaliste. Parcours d'un baby-boomer ». Alors, mon compte est celui-là. Comme une grande partie de ma génération placée à gauche, et je crois que nous sommes tous les trois dans le même cas, nous avons été communistes et marxistes, plus ou moins encartés, bon, mais nous l'avons été, c'est-à-dire que nous avons cru dans l'utopie communiste. Or, j'ai découvert peu à peu, par la lecture, la réflexion et la pratique, l'expérience, que c'est une utopie chimérique. J'appelle utopie chimérique un projet follement ambitieux, mais qui n'a aucune chance de se réaliser, parce qu'il est contradictoire dans les termes. Le projet marxiste d'une société sans classe, sans État, sans pénurie, sans guerre, sans aliénation, ce n'est pas autre chose que la version profane du paradis céleste des religions révélées. Bon, je l'ai compris progressivement, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on tourne le dos à toute utopie, car il n'y a aucune transformation profonde de la société sans le principe espérance. Mais il y a des utopies réalistes, c'est-à-dire des projets très ambitieux et donc très improbables, aucune garantie de réussite, mais qui ne sont pas hors de portée si il y a une volonté consciente, organisée, opiniâtre, prolongée des hommes et des femmes. Bien, on en a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Si vous prenez par exemple notre République, lorsqu'elle a été conçue, notre République sociale, démocratique, libérale, lorsqu'elle a été conçue dans les têtes il y a deux ou trois siècles de cela, c'était un projet psychédélique. Bon. Mais on y est arrivé, ça prend du temps. Et aujourd'hui, il y a des projets ambitieux, improbables, réalistes. Pour moi, le projet en question, c'est la construction d'une fédération des États, des nations européennes, qui est l'espace pertinent, et c'est là peut-être qu'on va diverger avec Régis, on ne divergera pas sur le reste, qui est pour moi l'espace pertinent des réformes sociales.
Régis Debray, comment
résumer? C'est curieux comme on dit toujours « j'ai cru », on décline nos croyances au passé. Comme si,
On n'en avait pas aujourd'hui.
On n'en avait pas aujourd'hui.
On en a d'autres.
Comme si on avait honte d'avoir cru, ou comme si on voulait en quelque sorte s'en excuser. Non, nous croyons tous en quelque chose, et même quand on dit je ne crois plus, on croit encore. Alors, oui, quand je dis qu'il faut faire ses comptes, c'est qu'à un moment donné, on passe, c'est le bénéfice de l'âge, de la vie rêvée à la vie réelle. C'est-à-dire qu'on commence comme romancier, on s'éclate en plusieurs personnages, et on finit comme notaire, parce qu'on est bien forcé d'enregistrer une ligne droite. Et donc je crois que c'est être honnête que de constater que si la vie s'ouvre comme un éventail, elle se termine comme un entonnoir. Bon, et on est bien forcé de se mettre au bout et de voir qu'est-ce qui est sorti de tout ça. Et moi, avec bilan de faillite, je ne fais pas un aveu un peu tardif d'un échec personnel. Non, je constate un changement de saison dans l'histoire de l'Occident. Je constate que nous avons changé de monde et que nous sommes passés, je dirais, d'une civilisation à une autre, en quelque sorte, et que dans cette nouvelle civilisation, dominée par l'image et non par le livre, dominée par l'émotion et non par la raison, des gens comme moi, disons des écrivains, journalistes, ou qui ont voulu l'être, sont devenus obsolètes.
Oui, alors nous y reviendrons à cette nouvelle saison et à ce qu'on peut dire, justement, à ce qui nous succède dans cette nouvelle saison, mais quand même, arrêtons-nous sur le passé. Utopie chimérique, avez-vous dit Henri Weber, et puis on n'a pas à avoir honte de ses croyances, a dit en écho Régis Debray, quand même, il ne s'agit pas de faire de mea culpa, mais d'avoir honte. Mais utopie chimérique, vous en tirez à bon compte. C'est pas simplement une utopie chimérique, le communisme. C'est-à-dire, c'est une utopie qui promet le bien sur la Terre, et qui, du fait de cette promesse, tient les adversaires en ennemis, les considèrent comme des ennemis de l'humanité. Robespierre a commencé, la politique, c'est la guerre contre, justement, les ennemis du genre humain. Autrement dit, il s'agit d'éradiquer le mal, c'est la chimère, mais on le fait à travers l'élimination des méchants. Et même Trotsky le disait dans Leur morale et la nôtre. Toutes les règles de la morale sont suspendues vis-à-vis des ennemis. Il réintroduit non seulement l'aide de classe, mais le thème de la guerre civile. Or, c'était contre, justement, le spectre de la guerre civile que s'est constitué l'État libéral en Occident, à partir de Hobbes. Et pourquoi la guerre civile? Parce que, précisément, il s'agit bien d'en finir avec les ennemis de l'humanité. Alors, on a joué cela en 68, on y a cru ailleurs qu'en Union soviétique, mais il serait assez légitime de revenir sur ce type de croyance, sur ce type de radicalité, ne fût-ce que pour ne pas la léguer sous une forme ou sous une autre à ceux qui nous succèdent, Henri Weber.
Oui, moi je suis d'accord avec votre développement. Une utopie chimérique, ou bien elle reste au niveau de la chimère, bon, ce qui a été heureusement le cas en Europe occidentale. Et si elle passe à l'exécution, elle devient une utopie meurtrière. Et il n'y a pas d'exception. Un projet qui ne peut pas se réaliser parce qu'il est contradictoire dans les termes, quand on veut le réaliser de toute force, on le réalise par la force et donc par l'oppression. Et ça, c'est un acquis qu'il faut transmettre. Mais dans la social-démocratie, dès le tournant du siècle, le premier a été Bernstein, le second a été Kautsky. La social-démocratie a compris ça. La social-démocratie, c'est la synthèse entre la critique marxiste du capitalisme et ses contre-propositions et l'intégration de l'apport du libéralisme politique et culturel. C'est ça la social-démocratie. Et c'est l'autre branche. Le marxisme a donné naissance à deux branches. Une branche radicale qui, quand elle est passée aux actes, est devenue totalitaire, et une branche qui a compris cela et qui est devenue réformiste, et qui a transformé le projet, et qui à qui on doit la douceur de vivre en Europe occidentale. Et je suis passé de la première à la seconde.
Régis Debray, sur les croyances,
écoutez,
justement.
Écoutez, je suis devenu totalement étranger au monde idéologique, donc j'ai du mal à suivre ces raisonnements. Bon, alors vous avez parlé des cruautés communistes. Effectivement, on a appris...
Inhérente au projet, si vous voulez. Si la politique, c'est la guerre de l'humanité contre ses ennemis,
La pensée du meilleur autorise le pire, et la pensée du bien absolu permet de faire beaucoup de mal aux gens tels qu'ils sont. Bon, nous sommes d'accord. C'est en quoi toute utopie est dangereuse. Tout homme qui dit « j'ai la vérité » est un homme dangereux. Bon, bah, nous l'avons appris, que ce soit dans le champ religieux ou dans le champ politique. Cela dit, d'où vient mon indifférence aux controverses idéologiques? C'est que j'ai découvert leur inutilité totale. C'est-à-dire, nous avons assisté, disons, avec l'américanisation de nos mœurs et de nos pensées, elles-mêmes dérivant d'un saut technologique dans nos moyens de perception du monde et nos moyens d'expression, nous avons assisté à une formidable stérilisation intellectuelle du champ politique. Autrement dit, la politique n'est plus du tout une affaire de mots, une affaire de discours, c'est une affaire d'image. D'émotions rapides, instantanées, mais si j'avais conseillé à mon ami Henri d'abandonner la musique des idées, c'est que c'est une musique qui ne s'entend plus. C'est le musicien qui compte, c'est l'histoire du musicien, oui. C'est la personne du musicien. On dit aujourd'hui son look, et ça veut dire beaucoup de choses.
Oui, mais Régis Debray, Henri Weber parle de vous dans son livre, à deux reprises. Il dit ceci notamment... Régis Debray, que j'avais rencontré dès son retour du Chili et qui était devenu un ami, nous invita à reconsidérer la question nationale, ce point aveugle, selon lui, de la théorie marxiste. Oui. Nous la sous-estimions, il fallait donc y revenir. C'était en effet prémonitoire de votre part, c'est très important. Or, par-delà l'émotion, le clinquant, la mainmise du showbiz sur la politique... La question nationale se pose avec acuité aujourd'hui, dans toute l'Europe. On parle de populisme, et c'est des peuples qui se vivent comme nations et qui veulent rester des nations. Et pourquoi ? Du fait de l'américanisation, oui, bien sûr, qui les dépossède à sa manière d'eux-mêmes, mais du fait aussi de la fracture française. On parlait de fracture sociale au moment de l'élection de Chirac, et Gilles Kepel parle de fracture française, ce qui est confirmé par François Hollande, dans son célèbre entretien avec Davelhomme, puisqu'il dit qu'on va, on va vers la partition. Il l'a pas dit au pouvoir, mais il l'a confié. Il dit, je suis au pouvoir et je vois cela. Les raisons pour lesquelles on n'a pas parlé seraient intéressantes, mais il le voit. On va vers la partition. Alors peut-être que c'est exagéré, mais pourquoi abandonnez-vous complètement le terrain au moment même, si vous voulez, où l'existence de la nation est en question, et ce sera sans doute, Hubert Védrine le dit, à travers le problème migratoire, ce sera sans doute la question du siècle, et si l'Europe n'arrive pas à y répondre, elle va exploser, parce que c'est aussi la question de la survie de l'Europe. Donc, il me semble que vous aviez tous les éléments pour penser cela, et par-delà la superficialité des joutes politiques, c'est nous vivons un moment extrêmement sérieux et douloureux de notre histoire, Régis Debray.
J'aime pas me répéter, ça fait 50 ans que je dis, la question nationale est décisive, et si vous ne la traitez pas, vous aurez le nationalisme. Ça fait 50 ou 40 ans que je dis, la mondialisation est un leurre, la mondialisation c'est le retour à la tribu. Tout au bout. Donc, je n'aime pas me répéter. D'ailleurs, c'est dans une revue trotskiste, je crois, en tout début des années 70. Moi, j'avais découvert en Amérique latine simplement la question de la culture, c'est-à-dire la question de la nation, la question de la langue, la question de ce qu'on mange, la question de ce qu'on rêve, la façon dont on parle. Parce que quand nous étions en Bolivie, eh ben, on ne connaissait rien de la culture quechua, on ne connaissait rien de la culture andine, et c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait cet immense trou noir dans le marxisme qui allait se payer très cher, et que nous payons effectivement. Alors écoutez, j'ai écrit 5 ou 6 livres sur la question, ça n'a eu absolument aucun impact, je ne vais pas reprendre, mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Nous assistons aujourd'hui à une crise, parfois hystérique, un retour du refoulé, que nous n'avons pas su, je dirais, analyser à temps.
Henri Weber.
Alors déjà, sur la musique idéologique, il y a un corpus d'idéologie qui est en crise. C'est les idéologies progressistes. Les autres idéologies se portent formidablement bien. Elles ont le vent en poupe, elles déferlent, à commencer par les nationalismes qui font retour. agrémenté du populisme. On ne vit pas dans un monde sans idéologie. La lutte idéologique est plus essentielle que jamais. Et je prends l'autre exemple que nous avons vécu dans les années 90. C'est le retour en force de l'idéologie libérale, monétariste, qui a gagné dans le champ des idées. Et l'idée que l'État n'est pas la solution, mais est le problème, c'est le résultat politique de cette victoire. En conséquence, moi j'accorde une importance essentielle à la bataille des idées. Les luttes politiques se gagnent toujours d'abord dans les têtes. Ça a toujours été vrai et ça le demeure. Alors s'agissant de la nation...
Ah oui, parce que si vous dites tout de suite c'est le nationalisme,
S'agissant de la nation, je la court-circuite nullement. Comment défendre? Comment faire en sorte que la France, par exemple, ait un avenir à la hauteur de son glorieux passé? Comment faire pour cela? Pour moi, il est évident que dans le monde dans lequel nous sommes entrés, monde des États continents, la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Russie, etc., monde des méga multinationales qui ne payent plus l'impôt, eh bien, si nous ne sommes pas capables de rassembler nos forces au niveau continental, eh bien, nous serons victimes de l'extéritorialité du droit américain. Ils contraindront nos entreprises à quitter tel et tel marché parce qu'ils en ont la force. Et si nous ne sommes pas capables de nous la donner, je dis autrement, la plupart des grands défis auxquels nous sommes confrontés n'ont plus de solution purement nationale et même principalement nationale. Il en va ainsi de la maîtrise des flux migratoires, comme on vient de l'éprouver encore hier soir. Il en va ainsi de la sécurité, de la défense. Il en va ainsi de la lutte contre le réchauffement climatique. J'arrête là la liste. Autrement dit, je crois dans une doctrine qui est tout à fait ancienne, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'exercice du pouvoir qu'il faut articuler. Il y a le niveau local, qui est très important. Il y a le niveau régional. Il y a le niveau national. Et il y a le niveau européen. Et j'ajouterais, il y a même le niveau mondial. Et le problème d'une souveraineté véritable, c'est d'être présent sur ces cinq niveaux et de savoir les articuler.
Mais alors, c'est l'Europe post-hitlérienne qui a voulu se définir par le droit et le marché. Et si l'Europe n'est pas capable de se reconnaître et de se défendre comme civilisation...
Mais elle a voulu se définir d'abord par les valeurs.
Oui, par les valeurs.
L'Europe,
oui.
C'est d'abord...
Non.
Un ensemble de valeurs.
Non,
ça, vous lisez les textes fondateurs, elles sont toutes énumérées.
Non, l'Europe, ce ne sont pas simplement de valeurs, les valeurs, ce sont des non-choses, l'Europe, ce sont des choses, l'Europe, ce sont des mœurs, l'Europe, c'est une forme de vie, l'Europe, c'est un mode de présence sur la Terre qui a sa singularité
donc des
et
valeurs.
Qui doit être fin du côté. Pas simplement,
c'est
beaucoup plus concret, substantiel. Mais
heureusement.
Régis Debray a l'air de bouder, donc je vais l'interroger plus personnellement. C'est-à-dire, on a parlé de vos parcours et des enjeux actuels de notre vie, mais vous adressez ce livre à votre fils Antoine. Il avait 16 ans au moment où vous l'avez écrit, il devait entrer en terminale, et la question que je voudrais vous poser, c'est d'abord, que lui déconseillez-vous? Parce que c'est pas tellement des conseils que des avertissements, votre livre. Alors vous en êtes là, nous en sommes là, c'est d'après vos doubles décisions. Que déconseillez-vous à votre fils, Régis Debray?
Je lui déconseille de faire comme moi, premièrement. C'est-à-dire, je lui déconseille de prendre la bisbille politique immédiate, l'écume des jours, trop au sérieux, car les questions inscrites dans la longue durée, les questions de civilisation, les questions de religion, les questions de croyance sont fondamentales et beaucoup plus explicatives que telle ou telle dispute verbale à la télévision. Et je lui conseille surtout la destruction de la comédie, comme disait Malraux, c'est-à-dire de pouvoir s'émanciper de son milieu, de son appartenance, de pouvoir penser par soi-même, en se libérant de l'opinion et des sondages. Et puis, j'aimerais qu'il admette ce que j'ai eu du mal à admettre, c'est, je dirais, l'incohérence de nos vérités, c'est-à-dire le fait que on peut pas mettre dans le même sac ou dans le même camp le beau, le bon et le vrai. Qu'il y a des contradictions entre ces domaines. Et qu'il faut se souvenir que Léon Daudet a tout de même donné le prix Goncourt à Marcel Proust, Il faut se souvenir que Lucien Rebattet a encouragé la Nouvelle Vague et François Truffaut. Et moi, après tout, j'aime beaucoup le style des hussards. Et ils sont de droite, et ben je m'en fous, voilà. Donc, si vous voulez, nos vérités sont multiples, elles ne sont pas du même ordre, et je crois pas qu'on puisse, d'un seul revers de main, trancher à la fois de l'esthétique, de la morale, de la politique. Il y a de l'équivoque, il y a de l'enchevêtrement, et soyons complexes, comme dit l'autre. Voilà, donc, fuyons le simplisme, fuyons le manichéisme, essayons d'être authentiques, tout simplement, ce qui est très difficile, parce que nous sommes tellement, je dirais, influencés par le journal de 20 heures, par le journal qui pense comme nous, par notre famille, par notre milieu professionnel, que on a parfois envie de tout casser. Et donc, n'être jamais dupe de son milieu. Voilà ce que j'aimerais recommander à mon fils.
Ce que vous dites est intéressant, ça me ramène au début de notre conversation, parce que je crois que dans son dernier livre, Gérard Genette dit de ce qu'il appelle la gauchitude que c'était un idiotisme de métier. C'est-à-dire que, oui, dans son milieu professionnel, ouais, être de gauche allait de soi.
Comme la droititude pas... dans d'autres milieux.
Allait de soi et l'entre-soi est terrible.
Et l'entre-soi est terrible. La droititude, il y a très longtemps, la droite a vécu très longtemps sous la domination idéologique de la gauche.
Ça,
je
ne
suis même pas sûr que ce soit terminé. Même si, effectivement, une partie de la droite cherche à s'émanciper.
Et elle fait profession d'empirisme.
Oui, en plus. Oui.
En plus, donc. En plus,
oui. Alors, justement, vous, Henri Weber, vous en êtes, où en êtes-vous des conseils ou des déconseils, si vous voulez, à vos enfants ou, disons, à la génération qui suit? Vous lui palcez le témoin, et de quoi est fait ce témoin?
D'abord, je leur dis qu'ils vivent une époque formidable.
Ah bon?
Ah oui, absolument. Aujourd'hui, ils vivent une triple révolution, une révolution numérique, digitale, enfin bref. Bon, et donc, ils profitent de leur chance, ce qu'ils font d'ailleurs.
Ah oui, ça, ils le font parce que dès 3 ans, ils sont rivés à leur tablette. Même dans les restaurants. Les parents l'avaient.
Oui, oui,
c'est génial.
Des émoticônes. Bon.
Mais,
des émojis, des pictogrammes.
Le conseil que je leur donne, enfin, le legs que je leur transmets, c'est de rester mobilisés et investis dans la société. De ne pas se replier sur leur tente, de ne pas devenir donc des individualistes tocqueviliens. Bon. Et de défendre, consolider, approfondir, étendre la démocratie. Pour moi, la démocratie, telle que nous l'avons développée en Occident, c'est la véritable idée, inspiration subversive de l'Occident. Parce qu'elle attaque toutes les formes de discrimination et toutes les formes d'inégalité, avec des excès. Bon, mais fondamentalement, ça fait plusieurs siècles que ce processus dure, c'est la grande tendance dont le socialisme a été la pointe effilée. C'est un mouvement qui est aujourd'hui mis en péril en raison des difficultés du nouveau monde. Et il faut se mobiliser pour défendre nos démocraties. Et à mon sens, on ne peut le faire qu'au niveau continental, c'est là le niveau pertinent. Et donc, le faire, lutter pour une démocratie accomplie, qui soit donc non seulement politique, sociale, mais aussi participative, comme on dit, active, une société mobilisée. Lutter pour une économie maîtrisée, et lutter surtout pour une autre civilisation.
Une autre civilisation.
Une civilisation.
Ah, dis donc,
mais oui, bien sûr.
La nôtre est déjà tellement mal en point qu'il faudrait peut-être.
Justement. Non. Voilà. Bon, elle est mal en point, mais comme disait Talleyrand, quand je me considère, je me désole. Quand je me compare, je me console. Bien. Et donc, elle est mal en point, mais on peut maximiser ses bons côtés et minimiser ses défauts graves. Et ça, il faut. Moi, je n'ai pas renoncé à l'utopie de la société désirable, de l'alternative. Ce n'est plus le meilleur des mondes, mais c'est un monde meilleur. Et le monde peut être formidablement amélioré, et c'est ce que je leur demande de faire.
Peut-être aussi faut-il préserver des choses, mais alors j'ai quand même vous poser...
Aussi.
Je vais vous poser une question. à vous deux, un slogan qui a bercé nos générations. Est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Parce que vous le citez dans votre livre « Belle jeunesse » Henri Weber. « Nous ne sommes pas contre les vieux, mais contre ce qui les a fait vieillir. » Quel bilan tirez-vous de la philosophie que ce slogan porte en lui?
Oh bon, c'est un slogan, c'est une proclamation poétique due à un jeune lycéen qui s'appelait Richard Dehaye. Et le texte entier, c'est « nous sommes nombreux, très nombreux, nous sommes jeunes et nous savons nous reconnaître. Nous ne sommes pas contre les vieux, nous sommes contre ce qui les a fait vieillir. Nous ne sommes pas pro-chinois, qu'ils aillent en pro-Chine. » Autrement dit, voilà le statut du texte. C'est pas une élaboration théorique. Et sur le fond, c'est assez indigent.
Ah d'accord. Et vous, je devrais...
Écoutez, je ne peux plus entendre le mot démocratie sans éclater de rire.
Ah oui.
C'est devenu un mot tellement usé, qui est comme une monnaie, il y a le frais, le frais, c'est-à-dire on ne voit plus les traits sur la pièce de monnaie. Donc, c'est en fait un cache-misère qui empêche de penser. C'est souvent un cache-argent, un cache-vide spirituel. Un cash domination de classe. Donc, j'aimerais admettre qu'il faut peut-être aller un peu plus loin. Et j'espère qu'un jour, Henri se rendra compte que le progrès, car c'est un progressiste, a pour caractéristique de susciter le retour des archaïsmes. C'est pourquoi je dis la postmodernité sera archaïque ou ne sera pas. Alors, démocratie, il y a démos, n'est-ce pas? Démocratie, gouvernement du peuple, par le... Oui, mais le peuple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses qui sont résolument contradictoires. Le peuple, c'est démos, c'est-à-dire, en gros, les pauvres contre les riches, la majorité, les masses. Et puis c'est aussi, le peuple, c'est ethnos, oui. C'est-à-dire une singularité existentielle produite d'une histoire et d'une géographie qui a une langue, qui a une gastronomie, qui a...
une littérature aussi.
Qui a fondamentalement son épopée, bref, qui a une mémoire. Et alors, ces deux choses, on passe de l'un à l'autre. Et alors, le problème aujourd'hui, c'est que l'ethnos, nous l'avions oublié, il revient en force. Et tout le problème est de faire que ce retour ne soit pas celui d'un ethnicisme xénophobe, identitaire, fascisant. Et c'est ça notre travail, c'est-à-dire de trouver l'équilibre entre le démos et l'ethnos, mais sans jamais oublier qu'il y a des singularités collectives qu'on appelle des nations ou des cultures, et que les gens en ont marre tout autour du monde de se retrouver dans un grand trou noir où ils perdent toute différence et où ils veulent retrouver l'un Confucius, l'autre Saint-Serge, le troisième la Pachamama, d'autres Jésus-Christ ou d'autres Jacob. Voilà, donc... empêchons que ce retour du refoulé ne soit une régression, faisons-en au contraire une sorte d'harmonie vitale, si j'ose dire, entre une mémoire et un projet, entre des souvenirs qui pèsent lourd et, je dirais, peut-être une espérance. En tout cas, démocratie, je voudrais qu'on s'interdise désormais de prononcer ce mot qui ne veut plus rien dire.
Mais en tout cas, quand l'ethnos se réveille... Quelque forme que prenne ce réveil, il est condamné au nom de la démocratie. Voilà, la démocratie est contre l'ethnos, puisque précisément, la démocratie, c'est la lutte contre les discriminations. On ne doit pas faire, ça mène au mouvement de border, on ne doit pas faire de discrimination entre le national, l'autochtone et l'étranger. On ne doit pas faire de discrimination entre le migrant économique et le réfugié, etc. Donc la lutte contre les discriminations devient, pour certains, si j'ose dire, l'alpha et l'oméga de la démocratie. Et là, ça me rappelle Tocqueville, parce que Tocqueville décrit aussi la démocratie comme un processus qu'il faut savoir modérer et limité, parce que si tout en démocratie est voué à devenir démocratique, ça devient vrai aussi de la famille, où les hiérarchies sont abolies, et de l'école. La crise de l'école vient aussi du fait que le maître qui enseigne, et vous l'avez aussi écrit, Régis Debray, est confondu avec le maître qui opprime. Magister égale dominus. Mais tout ça, c'est au nom de la démocratie, au nom du processus démocratique. Donc, il y a toutes les raisons aussi, non peut-être pas de se débarrasser du mot de démocratie, mais de voir toutes les entrées, toutes les définitions dont il est porteur, et qui sont parfois contradictoires, notamment dans cette idée que le peuple, quand il se manifeste comme ethnos, eh bien, est considéré comme non démocratique. Et ça, on n'ira pas loin, si vous voulez. On le cantonne dans le populisme, et la démocratie, c'est autre chose. Ça peut, les résultats risquent d'être très, très, très inquiétants.
Oui, Henri Weber. Je suis en désaccord avec vos deux interventions, parce que il s'agit pas d'abandonner le mot démocratie. À un moment où beaucoup abandonnent la chose, la démocratie est détruite, elle devient démocrature.
Oui, on peut poser la question du pourquoi.
Oui, on peut se la poser et on peut y répondre. Elle devient démocratie illibérale. Pourquoi une des raisons, il y a évidemment, comme toujours, un faisceau de raisons. Pourquoi? Une des raisons, c'est que elle est frappée. On est rentré dans un nouvel âge de la démocratie. C'est pas seulement une démocratie numérique et médiatique, comme on dit et comme on sait, et ça a beaucoup de conséquences. C'est aussi une démocratie sceptique, parce que les grandes utopies, les grandes idéologies émancipatrices héritées du XIXe siècle se sont effondrées, et on mesure pas l'impact que ça a eu. Le devenir, l'avenir, le futur est devenu obscur, brouillé, on ne sait pas. Notre génération, elle savait quelle était l'alternative à la société bourgeoise et capitaliste. La nouvelle génération, elle en a pas la moindre idée. Et l'organisation que j'ai fondée s'appelait la Ligue communiste, et elle savait de quoi elle voulait accoucher. L'organisation qui a suivi s'appelle le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Ils sont anticapitalistes, mais ils sont pourquoi ? Ils n'en ont pas la moindre idée. Et surtout, il y a eu cette deuxième mondialisation qui fait que les acteurs publics, les États, les partis, les syndicats, les associations sont restés essentiellement nationaux, alors que les acteurs privés, les détenteurs du pouvoir économique sont devenus mondiaux et que le rapport de force s'est désintégré, s'est désagrégé au profit des seconds et au détriment des premiers. Et ça a frappé nos États et nos gouvernements d'une relative impotence. Pendant longtemps, les peuples ne se sont pas aperçus parce que ça a été masqué, c'était la faute à l'Europe ou à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ils la mesurent, cette impotence. Et donc, ils exigent une forme d'efficacité. Et c'est pourquoi ils se tournent vers des solutions autoritaires. Je pourrais continuer, mais...
Oui, mais
Alain me fait signe qu'il faut que je m'arrête.
Non, pas du tout. Vous parlez du NPA, ouais. Et on ne sait pas pourquoi ils sont. En effet, anticapitalistes, simplement, ils sont aussi pour le multiculturalisme, qui, aux États-Unis, sous la forme du politiquement correct, mais dans le monde entier, devient, si vous voulez, la nouvelle utopie, le nouveau communisme.
Oui, c'est pas notre cas.
Avec
c'est
le cas
ni du PS, ni de la gauche en général,
non.
Et encore moins de Macron et de la droite.
Non, mais
donc,
c'est le NPA.
La France n'est pas multiculturelle.
Mais
en quoi elle n'est pas américaine?
Oui, mais c'est le NPA avec le voile islamique comme drapeau et des damnés de la terre. C'est aussi les nouvelles révoltes, parce que vous voyez les nouvelles générations avec les stages non mixtes, les racisés qui veulent, comme on dit, pouvoir délibérer ensemble.
C'est la marge de la marge. Vous évoquez la marge de la marge.
L'effervescence Nuit debout, elle est de cet ordre. Oui. Mais bon, Régis Debray, là encore, vous soyez content de la conversation. Donc, j'en reviens à votre bilan de faillite. Alors, d'abord avec une taquinerie et ensuite avec une question. Une taquinerie, moi, j'admire votre œuvre, Régis Debray, donc je peux me permettre d'être taquin, parce que le mot faillite laisse penser que vous allez, revenir de manière critique sur votre trajectoire, c'est pas tout à fait le cas. C'est plutôt une certaine, je sais pas l'autosatisfaction, mais quand même, vous avez eu raison avant tout le monde, et les livres où vous avez eu raison, on les met au pilon aujourd'hui. Bon, mais peut-être d'ailleurs avez-vous eu raison. Et la question que je voudrais vous poser, c'est celle-ci. Il y a des choses que vous ne conseillez pas à votre fils, et puis tout d'un coup, il choisit de faire une terminale S. Il choisit la science et les techniques. Et là, vous êtes très content. Vous dites que comme ça, il va s'en tirer, il va éviter les écueils. Notamment, il ne deviendra pas un intellectuel, un accusateur, comme si les intellectuels étaient seulement des accusateurs. Et donc, vous êtes très soulagé. Est-ce que c'est ça l'alternative de notre temps? Est-ce que c'est ça qu'il faut dire à ceux qui nous succèdent, Régis Debray?
Bon, alors, trois points.
Bon. Premièrement, le NPA. Moi, j'aime bien qu'il y ait des gens dans cette société qui se rappellent qu'il y a des classes sociales et que ces classes sont en lutte et que les riches sont en train de gagner la lutte des classes et que c'est peut-être une raison pour les pauvres de se rebeller. Donc là, premier point. Deuxième point, Henri Weber a raison, nous sommes la première génération, peut-être dans l'histoire entière de l'Occident, qui ne sait pas quoi attendre du futur. Nous sommes la première génération qui ne sait pas ce qui est désirable ou ce qui est souhaitable ou même ce qui est possible. Donc nous sommes coincés et il n'y a pas d'autre exemple, je crois, dans l'histoire de l'Occident. Nous sommes assignés à notre présent. Bon. Et cela, quand on est confronté à d'autres cultures pour qui la mort est le début de la vie, de la vraie vie, pour qui la mort est une renaissance, et plus on se suicide et plus on tue autour de soi, plus on est promis au bonheur, ça nous met dans une position difficile. Alors mon troisième point s'adresse à vous, mon cher Alain. Je reconnais votre attitude très critique envers le fait technique. Bon, je ne dis pas, je n'emploie pas l'hémophobie, je ne vous traite Merci. Pas de technophobe, ne soyons pas bêtement polémistes. Moi, je constate seulement une chose. C'est que dans le devenir technique, il y a un cliquet d'irréversibilité. On ne revient pas à la charrue après le tracteur et on ne revient pas à la décoction ou à la tisane après la pénicilline. Et je constate que dans l'ordre politique, il n'y a jamais d'avant et d'après définitif. Voilà. Et donc, et je constate également qu'on ne peut pas séparer le spirituel du matériel et qu'un changement d'écosystème technique, comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, en gros la vidéosphère, avec tout ce qu'elle implique dans la conception du temps et de l'espace, eh bien ça influe de l'intérieur sur nos pensées, sur nos croyances. Donc je prends au sérieux le fait technique. Je suis médiologue, excusez-moi, et le smartphone, par exemple, me semble, ou le conteneur, me semble avoir eu des conséquences infiniment plus importantes que les thèses de tel ou tel parti ou tel essai formidable. Donc, c'est un constat que je fais. Je constate que l'homme est un être à la fois technique et spirituel et qu'il est bon, comme Michelet disait, de rendre l'histoire à la fois plus matérielle et plus spirituelle. Les deux ne s'opposent pas. Voilà, mon cher Alain, vous avez exprimer une profession de foi, j'en exprime une autre, je suis ravi.
Je n'ai pas exprimé une profession de foi technophobe, absolument pas, mais absolument pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous, en réalité, Régis Debray, et quand vous dites que Heidegger est idéaliste, je crois que vous vous trompez. Je ne crois pas qu'il a mené, au contraire, la déconstruction, comme on dit aujourd'hui, de la métaphysique dont l'idéalisme est issu. Il a dit que penser est du même ordre que travailler à un coffre, mais surtout, et là, justement, c'est une réflexion un peu heideggerienne, vous dites que les révolutionnaires sans révolution qui annoncent mais ne délivrent pas, ont pavé notre chemin. Mais il y a d'autres révolutions, beaucoup plus importantes, machines à vapeur, électricité, aéroplanes et l'iPhone. Et vous dites, justement, qu'aucun son de trompe n'avait précédé. Mais nous sommes tout à fait d'accord. Simplement, précisément, l'opposition heideggerienne entre la pensée calculante et la pensée méditante se retrouve. Je ne dirais pas que la science ne pense pas, mais elle ne pense pas directement ce qu'elle fait. Il faut l'aider. Ou alors que les scientifiques fassent un pas de côté. Ce à quoi ils ne sont pas toujours disposés. Et la médiologie, c'est ce pas de côté. C'est-à-dire, il y a l'iPhone, hein, que la technique fabrique, et il y a les conséquences de l'iPhone. Il y a la façon qu'il a de modeler notre monde. Donc ça, c'est une tâche. C'est la tâche de donner du sens à tout cela. Et cette tâche, elle est très importante. C'est une tâche intellectuelle. Je ne sais pas comment l'appeler. C'est une tâche philosophique. Donc voilà, c'est tout. Vous avez sans doute raison d'être soulagé de voir votre fils choisir cette voie. Mais la charge de penser cela revient quand même à notre société, d'ailleurs, pour savoir ce qu'elle va devenir.
Je vous suis, Régis Debray. Je vous suis, mon cher Alain. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons avoir une politique de la technique. Nous devons avoir une maîtrise du fait technique, au lieu de l'éluder ou de lui tourner le dos. C'est ça, aujourd'hui. Peut-on avoir une politique de la technique ? Ça me semble la question clé.
Ben voilà, nous sommes d'accord, nous allons fonder un parti. Henri Weber, est-ce
mais
que
si vous fondez
membre
un parti,
de notre parti
c'est, bah, sur cette base, absolument. Mais c'est une base qui me paraît un peu ténue, parce qu'en réalité, c'est un sujet qui nous occupe et qui nous travaille. Prenez l'affaire de la révolution, dont on n'a pas encore mesuré les effets, qui sont sans doute plus considérables que tous les précédents. C'est ce qui se passe dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique. Les progrès qui sont accomplis dans ce domaine, c'est comme tout progrès technique. Tout dépend de ce que les hommes, collectivement et individuellement, en font. Bon. Et je voudrais pas répéter bêtement que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais il n'y a aucune contradiction entre les progrès. Au contraire, il y a complémentarité.
Mais là, vous voyez que, vous parlez des biotechnologies, une nouvelle obligation nous revient, une obligation étrange, pour nous qui avons grandi dans un univers prométhéen, celle de fixer des limites. Il y a un moment donné, il faut bien que le progrès s'arrête. Alors, par exemple, on va, au nom des droits individuels, c'est-à-dire les droits de l'homme associés aux techniques, ça fait de l'enfant un droit individuel. Donc, procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, même les femmes seules, familles monoparentales, etc. Et à ce moment-là, on va se poser la question de la gestation pour autrui, puisque les homosexuels vont réclamer l'égalité, etc. Donc, il y a bien un moment où d'autres principes impose de fixer des limites. Et est-ce que tout ça, justement, dans le cadre de la technique qui façonne notre monde, ça va pas être un des grands problèmes, une des grandes questions de notre temps? Fixer des limites ou les fixer et avant de le pouvoir de le faire?
Mais tout à fait. Et je donne l'exemple. Nous avons, ma génération de 68ards, nous avons conquis énormément de droits et de liberté nouvelle, et j'en suis tout à fait fier. Il y en a un qui reste à conquérir, et là, on va peut-être discuter. C'est le droit de mourir dans la dignité. Bon. Alors là, il faut en effet l'encadrer. Un certain nombre de pas ont été faits dans ce sens. Voilà un droit qui est très régulé pour l'instant, trop à mon sens. Il y a des pays qui l'ont organisé un peu différemment, ils s'en portent pas plus mal. Eh bien, c'est là où la démocratie intervient, mon cher Régis. Ces questions de réglementation, de régulation du progrès technique, de sa maîtrise, et surtout des inégalités qu'il génère, parce que tout progrès technique crée immédiatement des inégalités formidables. Il va y avoir des analphabètes numériques, il y en a déjà beaucoup, dans un monde complètement numérisé. Mais oui, mais c'est un handicap absolument majeur. C'est à la société qui débat, qui réfléchit et qui se détermine démocratiquement pour savoir où sont les limites.
Régis Debray.
Ayant écrit un livre intitulé « L'Éloge des frontières », je crois que je n'ai pas à être convaincu du caractère impérieux de la limite. La limite, condition de la liberté, la limite, condition de la souveraineté, la limite, condition du respect d'autrui. Donc, nous sommes d'accord là-dessus. Quant au handicap informatique que nous partageons, Alain et moi, c'est ce qui m'a amené en partie à écrire ce bilan de faillite, qui est simplement l'aveu d'une certaine impuissance ou d'une certaine incompétence à exister dans le monde d'aujourd'hui.
Et cette question de la limite, c'est vrai, je dirais, Régis Debray, qu'elle hante une partie de votre œuvre, et je voudrais en donner deux citations. D'abord, La République entre le glaive et le code, vous dites « La particularité nationale est à compter au nombre des infortunes providentielles qui empêchent les individus de se prendre pour des dieux. Cela s'appelle la finitude, dont notre langue maternelle est une manifestation parmi d'autres. C'est une mise en cause de l'arrogance métaphysique d'un certain humanisme qui, pour reprendre la définition d'Alain Renaud, valorise en l'homme, la double capacité d'être totalement conscient de lui-même et d'être aussi son propre fondement. L'homme sujet, subjectum, c'est-à-dire fondement de ses pensées et de ses actes.
L'homme c'est père pas de lui-même, l'homme autofondé.
Voilà, c'est ça. C'est pas aussi simple, dites-vous, en effet, et vous y revenez souvent, et je crois que c'est très important de le répéter, d'en tirer toutes les conséquences philosophiques et politiques. Et une dernière question, quand même, Régis Debray, personnelle. Vous avez écrit cette lettre à Antoine, et alors qu'est-ce qu'il en a pensé? Comment a-t-il réagi? Votre fils.
D'abord, il a un peu le sens de l'humour. Et donc, il autorise mon désespoir de respecter la politesse, c'est-à-dire de jouer un peu sur les mots, les analogies. Et je trouve que, au fond, je crois qu'il m'a, compris avec le sourire qui convient. Un sourire, je dirais, ironique et bienveillant. Et moi, je ne lui impose rien, puisqu'au contraire, je l'engage à ne se rien laisser imposer qu'il n'ait pensé par lui-même. Et donc, j'espère qu'il ne me ressent pas comme une férule, mais simplement comme un tremplin.
Mais est-ce que, quand on est adolescent ou jeune homme, on peut vraiment penser par soi-même? Est-ce qu'on pense par soi-même de soi-même?
Non.
Est-ce qu'on n'a pas besoin, justement, de médiation, oui, qui ne sont pas forcément la médiation paternelle?
On a besoin de maître pour se passer de maître. C'est le fondement de l'éducation.
Voilà. Et là-dessus, vous serez d'accord?
Absolument.
Bon, écoutez, c'est très bien. Nous terminons là-dessus. Alors, je ne sais pas si nous fonderons un nouveau parti. En attendant, je renvoie l'auditeur à la lecture de Rebelle Jeunesse d'Henri Weber chez Robert Laffont, Bilan de faillite de Régis Debray est publié aux éditions Gallimard, et le nouveau numéro de la revue Medium que dirige Régis Debray, Qui croire, vient de paraître. Il est édité chez Gallimard aussi.
Non, il est auto-édité. C'est une revue artisanale, quasiment domestique, faite de l'abnégation d'une petite équipe de chercheurs autofinancés.
Bon, bah très bien. J'y renvoie les auditeurs, parce que moi, je fais mon miel de tous les numéros de Medium. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr, où l'émission est téléchargeable pendant un an et écoutable à vie. La semaine prochaine, nous commencerons les rediffusions d'été avec une émission diffusée le 7 octobre 2017, Bourgeoisie française, avec Alice Fernet et Sophie Chauveau. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Pierre Monteil. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.